choix, quel choix, oh Seigneur, que te louer parmi les nations. Quel choix, oh Seigneur, que de célébrer ton nom. Dieu nous a établi lumière pour les nations.
Je voudrais vous apporter un message cet après-midi sur la restitution. Ça intéresse beaucoup de monde, la restitution. Je ne sais pas pour vous, mais depuis que je connais le Seigneur, je l'ai vu faire, comme chacun de vous, des choses merveilleuses dans ma vie. Wow. Mais je me suis fait voler pas mal de choses aussi. Vous n'avez pas ce sentiment qu'on s'est fait voler pas mal de choses? Alors moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous. D'ailleurs, le mot évangile signifie bonne nouvelle. Je m'étonne de tous ces prédicateurs qui ont toujours une mauvaise nouvelle annoncée. Et la bonne nouvelle, c'est que dans ces temps, même si l'adversaire il a redoublé d'efforts pour détruire, pour perdre, le Seigneur, il veut que ce soit des temps de restitution pour toute une partie de son peuple. Que nous puissions récupérer des choses qui nous ont été volées. Si on ne peut pas les récupérer sous la forme sous laquelle elles nous ont été volées, Dieu va nous les rendre sous une autre forme. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est le Dieu de la résurrection. Et lorsque quelque chose meurt et ressuscite, la Bible dit que ça ne ressuscite pas sous la même forme obligatoirement que quand c'est mort. Mais quand ça ressuscite, c'est toujours plus glorieux. Donc si vous vous êtes fait voler quelque chose, Dieu va vous le rendre d'une manière ou d'une autre, mais d'une manière glorieuse. Est-ce qu'il y a des candidats pour la restitution ici? Hein? Donc le Seigneur m'a donné ce verset il y a un moment au sujet de toute une partie de l'Église. Ésaïe 42, 22. C'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Un peuple dépouillé, personne qui dise « restitue ». Je voudrais qu'à la fin de ce message, on puisse ensemble prendre autorité et dire « restitue ». Puisque Dieu nous dit dans sa parole qu'il cherche des hommes et des femmes qui sont capables de dire « restitue » à l'adversité. Et pas juste d'attendre que ça se fasse tout seul. Voilà un texte qui définit bien toute une partie de l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, un peuple pillé et dépouillé. Alors vous allez me dire, Claude Payan, vous exagérez un peu. C'est quand la dernière fois que vous avez rencontré un chrétien dont le compte en banque il est rempli, qui est en parfaite santé, qui n'a pas des problèmes de couple? Ça devient rare. Ça devient rare. Nous qui voyageons, on se rend compte que ça devient rare. Quand tu dis « je suis heureux avec ma femme », il y a des tas de gens qui te regardent comme pour dire « mais c'est bizarre ».
C'est pas normal.
L'anormal est devenu normal. Avoir des conflits, avoir des problèmes, aller vers le moins au lieu d'aller vers le plus. Parce que c'est un peuple qui s'est habitué à être dépouillé. Vous allez me dire aussi quel rapport avec être enchaîné dans des cavernes, comme c'est écrit dans ce passage, plongé dans des cachots. Eh bien parce que ce qui se passe, c'est qu'à travers certains versets comme celui-ci, le prophète il voit dans le monde spirituel. Et il voit des choses que nous ne voyons pas. Nous voyons parfois des personnes qui ont des problèmes, et lui le prophète, il voit, si je peux dire, des parties ou des choses qui appartiennent à ces personnes qui sont dans des cachots spirituels d'où il faut qu'on les sorte. Une femme servante de Dieu a prié un jour pour un membre de sa famille qui se mourait du cancer. Elle a eu une vision et vous savez, lorsqu'on a des visions, on peut voir de l'extérieur la vision ou on peut se retrouver dans la vision. C'est très bizarre à expliquer. Et elle s'est retrouvée dans la vision et là, dans la vision, elle voyait sa sœur enfermée dans un cachot. Et le Seigneur lui a dit, commande à ta sœur de sortir du cachot, d'enlever ça dans le monde spirituel. Ce qu'elle a fait, la sœur est sortie du cachot, et lorsqu'elle est revenue dans le monde physique, sa sœur était complètement guérie. Et il y a des choses, Sergine le disait tout à l'heure, j'en ai parlé hier, il nous faut aspirer au don de l'Esprit et avoir la puissance de Dieu être manifestée. Parfois on prie pour une situation, on reprie, il n'y a rien qui bouge, et parfois, hop, il y a une vision, il y a une parole de connaissance, et ce qui ne s'est pas débloqué en 6 mois, ça se débloque en 5 minutes. Et c'est ce que nous voulons pour l'Église d'aujourd'hui, parce que Dieu a prévu des outils pour cette Église. Dans le peuple dont il est question dans Ésaïe 42, est aussi un peuple qui attend d'être secouru. Et je crois qu'aujourd'hui, au lieu de juger l'Église, il est important qu'il y ait des hommes et des femmes qui se lèvent pour l'aider et pour secourir ceux qui demandent de l'aide. Il y a des moments, en effet, dans la vie où on n'arrive plus à lutter, on est spirituellement et physiquement épuisé. Vous connaissez ces moments-là où on dit « j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui, au lieu de me juger, il m'aide à passer ce mauvais cap ». Au lieu de me dire « tu pries pas assez », eh bien, il prie à ma place pendant un moment. Il y a des moments où on a besoin d'un sérieux coup de main. Et la Bible enseigne en effet de prier les uns pour les autres et de porter ceux qui sont abattus. Il est même question qu'il y a personne qui délivre. Ce qui signifie qu'il faut qu'il y ait des personnes, des ministères, pour délivrer d'autres de leur situation complexe. Nous avons beaucoup de juges dans l'Église, mais pas toujours beaucoup d'intercesseurs. Notre texte d'Ésaïe dit encore et nous explique pourquoi tant de situations ne trouvent pas de solution, non pas parce que tout ce que Dieu permet est sa volonté, loin de là, mais parce qu'il n'y a personne qui dise « restitue wow ». Un autre serviteur de Dieu raconte que le Seigneur lui a fait voir l'enfer et plusieurs lieux particuliers. Et quand elle a eu cette vision, c'était le premier à être étonné, parce qu'il a ouvert une porte en enfer, parce qu'il y a plusieurs lieux, dans les lieux inférieurs. Et derrière cette porte, il a vu des tas de choses qui pourtant existaient sur terre, même des objets. Il a dit, mais c'est bizarre d'avoir une vision et de voir des objets qui sont sur terre en enfer. Et vous savez ce qui lui a été expliqué? Il lui a été expliqué que souvent, lorsque les chrétiens commencent à intercéder et à prier, du ciel et des stocks, je dirais, du ciel, leur sont envoyées les réponses à leurs prières. Mais souvent, lorsqu'ils n'arrivent pas à saisir ces réponses sur terre, ces choses continuent leur chemin et arrivent en enfer. Et on a des témoignages d'autres personnes qui ont vu le ciel. Et là, ils ont vu des stocks aussi. Vous connaissez ces témoignages d'hommes et de femmes qui ont vu le ciel? Ils ont vu des salles avec des bras, des jambes, des yeux. Au départ, ils ont dit, c'est bizarre là aussi de voir ça au ciel. Et lorsqu'ils ont interrogé le Seigneur ou l'ange qui se trouvait là, il leur a été répondu, ce sont les parties dont les gens ont besoin sur terre. Et donc lorsque Jésus, sur la croix, il a dit « tout est accompli », il a voulu dire « j'ai pourvu pour tous vos besoins, on en a fait des stocks de vos besoins dans le ciel ». Et maintenant le travail de l'Église, c'est d'apprendre à faire passer du monde spirituel dans le monde matériel ce qui se trouve de l'autre côté. La foi, c'est pour faire passer du monde invisible dans le monde visible ce dont nous avons besoin. Alors je continue avec ces exemples d'une autre prophétesse, parce que j'étudie beaucoup les visions qu'ont eues les uns et les autres. Je connais beaucoup de gens qui disent qu'ils ont eu des visions toute la journée, et c'est vraiment pas sérieux. Donc je veux faire la différence entre tous ces faux prophètes qui, découragent l'Église, et les vrais que Dieu a suscités pour l'encourager. Et une prophétesse, dans une vision qu'elle a eue du monde spirituel, a vu aussi des lieux de stockage qui, eux, appartenaient à l'adversaire. Elle a vu que c'était comme, dans le monde spirituel, des musées. Elle a même vu des tableaux, elle a dit, vivants sur les murs. C'est-à-dire que c'était des scènes qui dépeignaient, ou comme si on avait filmé, qui repassaient le mal qu'avaient fait certains démons dans la vie de certaines familles, des couples qu'elles avaient brisés, des gens qu'elles avaient empêchés de vivre dans leur destinée. Et ces démons, ils se réjouissaient et ils se repassaient ça. Vous savez, la Bible nous dit de repasser devant nos yeux les bontés de Dieu. mais dans le monde spirituel, ça marche de la même façon. Eux, ils essaient de se fortifier en repassant devant leurs yeux tout le mal qu'ils ont fait à l'église de Jésus-Christ et aux hommes en général. Mais, vous pouvez dire avec moi, mais. Il y a des mais qui sont négatifs, vous savez, mais ce mais-là, il est positif. Mais elle a vu que dans ces temps, ce lieu était secoué par la puissance de l'esprit et que Satan était forcé de rendre à plusieurs ce qu'il avait volé. Amen. Et cela, selon le principe biblique de la restitution. Parce que dans la Bible, quand tu dois restituer, c'est cette fois ce que tu as volé. Donc, ne vous contentez jamais que le diable vous restitue exactement ce qu'il vous a volé. Il faut qu'il rende les intérêts aussi.
Amen.
Et c'est un état d'esprit. Ok? Eddie Baker, elle dit que l'église de la moisson de ces temps qui va se lever se verra remplacer les années qu'ont dévoré la sauterelle, le Géleg, le Asile et le Gazam. Ouh, il y a des gens qui sont partants là pour que cette parole s'accomplisse. Ésaïe 59,4 est rendu par « Nul ne se plaint avec justice ». Mais il y a d'autres traductions qui rendent mieux ce texte par « Personne ne fait appel à la justice ». Dieu cherche des hommes et des femmes qui font appel à la justice. Vous avez vu toutes les injustices au sein du peuple de Dieu? Il y a des gens justes qui meurent de tous les côtés et il y a des gens qui ne font rien pour servir Dieu et qui prospèrent. Il y a un dysfonctionnement. Vous vivez dans le même monde que moi? Vous vivez dans la même église que moi? C'est fou le nombre d'amis qu'on a perdus ces derniers temps. Et des gens qui voulaient servir Dieu avec un appel merveilleux sur leur vie. Moi je crois qu'il y a un dysfonctionnement dans l'église. Et Dieu, il veut redresser les choses. Pour que son église fonctionne comme le corps qu'elle est supposée être. Alléluia! Alors pendant que tant de chrétiens se font uniquement l'idée de tout ce qu'ils vont perdre dans ces temps, pourquoi ne pas vous préparer à tout ce que vous allez récupérer? Êtes-vous prêt pour la restitution? Est-ce que vous êtes prêt à dire « Restitue !» Est-ce que vous êtes prêt à crier pour la justice, à invoquer la justice de Dieu? Au lieu de dire « Ah ben, si Dieu a permis ça, c'est vraiment qui le voulait. » Ben non! Le voleur ne vient que pour dérober et détruire. Il faut qu'il trouve dans ces temps une église, ou du moins une partie de l'église, composée de personnes unies, qui libère une onction puissante à laquelle il ne peut pas résister. Peut-être que vous avez vécu à un moment donné de votre vie, dernièrement peut-être, une situation que vous pouvez qualifier de pire. C'est le pire, c'est-à-dire une situation vraiment, 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 vraiment désagréable. Il y a des connaisseurs ici? Parce qu'il y a des situations désagréables dans la vie. Mais il y en a d'autres, elles sont vraiment, vraiment, vraiment...
désagréables.
Voilà. Et de ces situations, on peut imaginer qu'on va sortir progressivement, petit à petit, que ça va prendre beaucoup de temps, tellement c'est extrême. On peut imaginer aussi que ça ne s'arrangera jamais, tellement c'est terrible. Et le diable voudrait même nous faire imaginer qu'après le pire, on va venir le pire du pire. Donc il faut cesser de l'écouter, lui. Il a toujours plus pire à nous proposer. Mais le Seigneur a toujours mieux à nous proposer. Et le message que je veux vous apporter ici, qui est appuyé par la parole de Dieu, bien sûr, et par mes propres expériences, hein, est que par la grâce de Dieu, on peut passer du pire au meilleur. Pas juste du pire au mieux, hein, je répète, mais du pire au
meilleur.
Et beaucoup des hommes de Dieu, d'ailleurs, qui nous sont donnés comme exemple dans l'Écriture, ont vécu ces situations qu'ils pouvaient qualifier de pire, mais ils ont vu aussi le pire se transformer en meilleur. Dans Actes, au chapitre 27, au verset 28, ou plutôt les chapitres 27 et 28, nous voyons Paul qui est prisonnier. Déjà, ce n'est pas très folichon comme situation, vous êtes d'accord? Prisonnier. Il quitte la Crète sur un bateau en direction de l'Italie, puis de Rome. Bien vite, le bateau se retrouve pris dans une tempête. Et ce n'est pas parce qu'il a fait quelque chose de mal. Hein. Cela arrive d'ailleurs parce qu'on n'a pas écouté ses conseils. Vous êtes déjà retrouvé dans une galère à cause des autres et vous y êtes pour rien? Il y a des connaisseurs? Le bateau, il est entraîné au large, à la dérive. On ne contrôle plus rien. Vous connaissez ces situations? Vous ne contrôlez plus rien, les factures s'accumulent. Il y a celles que vous attendiez, puis il arrive celles que vous n'attendiez pas aussi. Et dans la même période, tu te rappelles les pas que tu avais fait un chèque qui devait être encaissé juste cette semaine-là. Et ton trou, il ne fait que grandir. Il y a des connaisseurs en trou de banque? Hein? Et là, ce n'est pas une petite tempête qui survient, mais le genre de tempête qui dure plusieurs jours. Vous connaissez ces situations, vous priez et il n'y a rien qui s'arrange. Et le diable te dit, ça ne sert à rien de prier. Et si tu l'écoutes, tu vas arrêter de prier. Ça s'aggrave de plus en plus au lieu de se calmer. Si bien que tout le monde est saisi de peur. Puis on est obligé de tout virer par-dessus bord pour alléger le bateau, absolument tout. Le téléphone portable de Paul, son ordinateur, il y a tout qui passe à la poubelle. Tout passe par-dessus bord. D'ailleurs, il paraît qu'il avait prévu d'écrire une épître aux Toulousains, on dit les Toulousains, voilà, qui ne vous est jamais parvenue parce qu'elle était dans son ordinateur qui est passé par-dessus bord. Okay? Imaginez quelqu'un qui fait faillite et qui perd tout, quelqu'un que son conjoint quitte. Et là, c'est ce qui se passe. Le bateau vient s'échouer près d'une île. Plus de bateau! Le gars, il est parti en bateau et d'un coup, il n'y a même plus de bateau. Imagine que ta voiture a pris feu et tu n'as pas réussi à récupérer ce qu'il y a dedans, ni à sauver le véhicule. Tu voudrais donner ce court témoignage de ce qu'on a vécu à une époque avec une voiture que j'avais achetée sans consulter mon épouse, je crois que ça ferait du bien au couple aussi, hein, et qui a brûlé devant nos yeux.
C'est important que dans le couple, on soit d'accord. Mais il y a des fois où on n'est pas d'accord. Et c'est là où il faut être d'accord, d'être pas d'accord. On a couvert tout ça hier. Mais c'est mauvais de prendre des décisions contre l'accord de l'autre quand c'est une décision importante. Et il y a bien des années, mon mari, il voulait acheter une voiture. On était invités d'y aller en Suisse avec les enfants. Et on devait partir 3 jours plus tard. Non, à ce moment-là, c'était 2 semaines plus tard. Il a dit, il faut qu'on ait une voiture. Mais on n'avait pas d'argent. Comment on va faire? Alors mon mari, il voit une voiture garée au bord de la route dans un quartier à côté. Et c'était marqué à vendre. Il a dit, ah, bonne affaire. Regarde, on peut l'acheter. Mesdames, je parle aux dames, hein, c'était laid. C'était horrible. On dirait une baleine accouchée sur le trottoir. C'était un de ces, une sorte de voiture gris, mat, parce qu'il était vieil. Comme ça. Et je dis ça, jamais de la vie, on ne va pas acheter un truc comme ça. Parce que les hommes, eux, ils sont intéressés par combien de chevaux il a à la voiture. Moi, c'est de quoi ça ressemble. Tu veux que moi, je monte là-dedans, hein? Non, mais je disais absolument, c'est hors de question. Alors, une semaine plus tard, on va manger. Mon mari, il arrive à la maison avec un paire de clés. Ça y est, je l'ai. Tu as quoi? Mais la voiture. Quelle voiture? Non, pas cette voiture-là. C'est pas possible. Elle a dit, eh oui, non, mais là, on n'a pas le temps d'y aller faire encore, de mettre des comment dire, de recherche ou de s'endetter. C'était pas cher, ça va y aller, pour y aller en Suisse. Je disais, oui, chérie, soumise comme je suis. Mais au-dedans de moi, j'ai dit, là, c'est une mauvaise affaire. Et bien sûr, quelques jours après, il fallait partir. C'était quelques jours avant Noël, je me rappelle, il faisait froid. Et il fallait partir à l'église pour chercher les sacs de couchage pour partir le lendemain. OK, jusqu'à là, ça va. Le voisin, il avait fait une révision. Il était un ancien garagiste, il a changé quelques bricoles là-dessus. Il a dit, ça devrait tenir. Alors, c'est jamais rassurant. Quand quelqu'un dit, vous allez partir en voyage, ça devrait tenir. Alléluia, pas quoi. Il faut prier qu'il y a des anges qui tiennent des tuyaux, je ne sais pas. Alors, donc, OK. Alors, on part tous les deux à l'église pour chercher les sacs de couchage. Simple, gamin, reste à la maison, papa, maman, on revient. On monte, c'était une fête de jour férié, je me rappelle. On monte à haut de la rue, et je ne sais pas pourquoi, mais les gens, ils étaient super sympathiques sur la route ce jour-là. Tout le monde faisait coucou, coucou, comme ça. Et moi, naïve comme j'ai été, je disais, oh, bonjour, pourquoi ils me disent bonjour? Mais en fait, ce n'était pas ça. C'est qu'il y avait du feu en dessous de la voiture. Et ils essayaient de nous dire, madame, il y a un problème. Et moi, je disais coucou, je disais, ça ne sent pas bon. Il avait du fumée qui sortait par les radiateurs. Je disais, attends, il y a quelque chose qui ne va pas là. Et d'un coup, on a eu juste le temps, c'est véridique, on a eu juste le temps de sortir de la voiture. Et on a pris, moi j'ai pris mon sac à main, Claudie, là, je ne sais pas pourquoi, il a ouvert le coffre, il a sorti le cric. Ouais, pourquoi pas? Je ne sais pas, ça peut toujours servir. Donc il avait le cric, moi je vais monter. Et le téléphone portable sur le siège arrière. Alors, et d'un coup, on regarde la voiture et les flammes commencent à entrer à l'intérieur de la voiture et le plafond commence à fondre comme des caramels sur les sièges. Je disais, là, pour choix de voiture, t'as fait fort, hein? Et alors, c'était juste à côté d'une une maison de retraite. Un monsieur, il sort avec un tuyau. Moi, je suis comme ça. J'essaie d'arroser en dessous. Claude, il est sur son téléphone pour téléphoner, je sais pas qui, le pompier. Et moi, j'étais là comme ça. Et savez-vous ce qui m'est arrivé? Là, je suis là, accroupiée, là. Je dis, pourquoi? Pourquoi il m'a fait ça? Et d'un coup, il y a quelqu'un qui me tape sur l'épaule et me dit, bonjour, madame Payan. Je me retourne et c'était une femme, effectivement, je connaissais de la maison de retraite. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu à l'armée de salut. Je dis, ah non, non, vous allez bien? Je dis, non, c'est cet instant, pas trop, non? Elle ne voyait même pas ce que je vivais. Elle disait, ah, c'est Madame Payan, je vais le saluer. Ah, mais c'est sympa, passe fantastique le lendemain si vous voulez, mais là, l'instant, excusez-moi, je suis un peu prise. Mais là, elle a pris son chemin, elle n'a rien vu. Je ne sais pas, il y a des personnes, ils n'ont pas aware, hein, comme ça. Attends. Alors, d'un coup, les pompiers, ils arrivent. Moi, j'étais couvert de, voilà, voiture, je ne sais pas. Ça faisait une sorte de tas comme des chamallows noirs collés sur le rez-de-chaussée. Les pompiers, je dis, oh, monsieur, heureusement vous êtes arrivé, j'ai peur qu'il explose. Ils me regardent, madame, on n'est pas dans un film, là. Les voitures, ils ne s'explosent pas. Je dis, mais je ne sais pas, moi j'ai prié. Et d'un coup, ben, la voiture, il était anéanti. Mon mari, il me regarde, je le regarde, il me prend par le bras, on prend le cric. Et on rentre à la maison. Et là, on descend le pont tous les deux à pied, un peu noirci. Et les enfants disent, alors, et la voiture, la voiture? Il a dit, c'est tout ce qui reste. Je me suis dit, alors là, je crois qu'on a raté quelque chose dans l'écoute de Dieu. Et pour que ça vous évite d'arriver, eh bien, il faut vraiment prendre le temps d'être d'accord pour certaines situations. Sinon, c'est comme une porte ouverte, l'ennemi arrive à entrer et voilà ce qui vous arrive. Mais l'histoire ne termine pas là, je répète, j'ai dit rapidement. Le lendemain, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de partir en Suisse, c'était pour servir le Seigneur. Et donc, Claude, il est allé à la location de voiture. Il faut une petite voiture, mais pour mettre quand même 6 personnes. Et donc, ben, qu'est-ce que j'ai le moins cher? Ben, peut-être ça, oui, ça devrait y aller. Ah, mince, j'en ai plus. Alors, d'un coup, il m'a donné un Renault Espace flambant neuf qui sortait de l'usine parce qu'il n'avait pas autre chose à nous donner. C'est sûr, il n'était pas à nous, mais je vous assure, on avait fière allure. On est parti en Suisse comme ça. Ah, j'aimais bien les Renault Espace, les femmes. Je disais, oh, mais d'un coup, mon mari a dit, d'accord, j'ai compris. Et on a découpé l'image de le Renault Espace et on a collé sur le frigo. Et on a dit, parce qu'il était dans une petite brochure, et on l'a collé sur le frigo, il a dit, on l'aura. cette voiture, on l'aura pour la famille. Et vous savez quoi? Eh bien, quelques mois plus tard, peut-être un an après, eh bien, on roulait dans une Renault Espace à nous. Et ça nous a permis, en fait, de sortir d'une certaine, peut-être, mentalité de pauvre, une façon d'accepter avec le strict minimum de ce que l'ennemi voulait nous faire croire, mais vous valez pas plus que ça. Mais le Seigneur, il voulait élever notre regard et de dire non, j'ai prévu autre chose pour vous. Et là, quand il a dit on aura cette voiture, cette Renault Espace, j'ai dit là, je suis d'accord. Alléluia. Et vous savez quoi? On a eu 3 Renault Espace, 3 générations, parce que la famille n'a cessé d'agrandir. Et ça nous était une grande bénédiction. Et quand nous, on avait fini avec un Renault Espace pour changer un autre, eh bien, on a fait cadeau à cette voiture, à notre famille qui était dans le besoin. Et c'est comme ça que la bénédiction se coule du Père vers les uns et vers les autres. Et ce qui est fini pour une famille est le début d'un miracle pour un autre. Bon, soyez bénis.
Et en ce qui concerne Paul, il y a quand même des survivants, et tous ces survivants regagnent la côte tant bien que mal, et c'est l'île de Malte. Et pour corser le tout, là tu te dis, bon ça y est, ça va commencer à s'arranger, il fait pas beau, pire, il se met à pleuvoir. Tout le monde est trempé, il reste trempé parce qu'il pleut. On se réunit autour du feu, qui est préparé par les habitants de l'île, ils sont très accueillants, ça c'est un bon point. Là on se dit, ça va s'arranger. Ça va peut-être commencer à s'arranger. Paul saisit une brassée de bois et qu'est-ce qui se passe? Il y a un serpent qui sort et qui le pique. Vous parlez d'une poisse? Si bien que les gens qui voient ça, ils disent, mais ce type-là, il a un problème. Il vient d'échapper au pire pour se faire mordre par un serpent. Et le texte grec sous-entend que c'est un serpent très venimeux. Ça vous est déjà arrivé, ce genre de situation? Vous vous dites, quand c'est que ça va s'arrêter? C'est quoi cette situation? Et le diable, il nous souffle, où est Dieu dans tout ça? Pourtant, Paul, il est apôtre, c'est pas n'importe qui. Il sert Dieu. Il a un pédigré spirituel. Il échappe à un grand danger pour finir par être mordu par un serpent venimeux. C'est le pire des scénarios, là. Difficile d'imaginer qu'une telle situation va pouvoir se retourner en quelques heures. Et pourtant, c'est ce qui va se passer. Paul est en train de vivre le pire des scénarios depuis plusieurs jours. Et là, ce serpent, c'est l'apogée. Mais il ne craque pas. Il y a des moments où le diable, ce qu'il veut, c'est nous faire craquer. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait qu'en fait, la bénédiction, elle n'est pas loin. Mais nous, on ne sait pas qu'elle n'est pas loin. Il ne se laisse pas démonter, même, si je puis dire. Il secoue l'animal dans le feu. Waouh ! Le texte grec sous-entend qu'il le secoue avec énergie, c'est-à-dire qu'il le secoue à plusieurs reprises. Vous connaissez ces situations, vous les avez secouées une fois, et elles ne se sont pas réglées pour autant, parce qu'il faut les secouer plusieurs fois.
Les secouer.
Il faut être déterminé. Les habitants de l'île l'observent et il y a toujours des gens pour vous observer, comme cette personne-là qui est arrivée au moment où Julia se trouvait avec ce jet d'eau. Il y a toujours des personnes pour vous observer lorsque vous êtes à deux doigts de craquer. Et c'est là, au moment le plus critique pour Paul, que la situation commence à se retourner. Ouf! Vous pouvez dire ouf? On s'attend à le voir tomber raide de mort quand on sait quelle sorte de serpent l'a piqué. Puis, en voyant qu'il ne lui arrive rien, on prend conscience qu'il y a un Dieu qui veille sur cet homme. Pourtant, le pire par lequel il vient de passer aurait pu faire croire le contraire. Ensuite, le premier magistrat, l'homme le plus riche de l'île, décide d'accueillir Paul et ses amis dans son domaine luxueux pendant 3 jours. Ça commence à se retourner sérieusement. Paul passe soudain du bateau d'esclave à l'hôtel 5 étoiles du premier magistrat de l'île. Il s'avère que son beau-père est malade. Paul fait ce qu'il sait le mieux faire, c'est-à-dire il guérit l'homme. Parce que l'onction ne l'a pas quitté à travers toutes ses épreuves. L'onction ne l'a pas quitté à travers toutes ses épreuves. Et je dirais même qu'à travers certaines épreuves à travers lesquelles on passe, l'onction, elle augmente. Il faut simplement qu'on soit remis en situation pour qu'elle puisse être libérée. Parce que si on se fie à ce qu'on sent humainement parlant, on a l'impression qu'elle a disparu. Et quand ils apprennent cela, tous les malades de l'île, ils accourent, et il les guérit tous au nom de Jésus. Il y a un réveil. Oh là là! Souvent, le diable, lorsqu'il sait que Dieu va faire quelque chose de puissant à travers vous, il met tout en route pour vous empêcher d'en arriver à ce stade-là. Paul, il avait sans doute un fort sentiment d'inutilité depuis un moment. Hein. Toute son énergie, pendant un moment, allait à garder, c'est le coup de le dire, la tête hors de l'eau. Et voilà que soudain, vous pouvez répéter, soudain, il est l'instrument d'un réveil qui touche toute l'île de Malte. Wow! Il passe du pire
au meilleur.
Ce qui nous dit l'Écriture vaut à Paul et à ses amis de recevoir toutes sortes d'honneurs et on pourvoit aussi à tous leurs besoins en vue de leur voyage. Ils ont droit à une super offrande. Puis on se rend compte qu'un bateau d'Alexandrie s'est mis à l'abri dans un port de Malte. C'est-à-dire qu'il y a la solution qui a déjà été préparée au moment où le problème est arrivé. Simplement, on ne la voyait pas. Ta solution, tu ne la vois pas, mais elle a déjà été préparée avant que ton problème il arrive. Alors donc, il a été prévu un bateau en remplacement de celui qui s'est perdu. À la différence du premier sur lequel Paul se trouvait, on pourrait dire que c'était un bateau peut-être d'esclaves, hein, de commerce aussi. Celui-ci, c'est un bateau, nous est-il dit, aux emblèmes de Castor et Pollux. Donc nous, ça ne nous parle pas aujourd'hui, mais en faisant quelques recherches, on se rend compte qu'à l'époque, c'était la crème des bateaux. C'était une compagnie... C'est comme dire que vous allez prendre la crème des bateaux, un bateau qui appartient à la compagnie maritime la plus luxueuse pour l'époque. Et en accentuant un peu le trait dans mon message, avec humour, on pourrait dire que Paul arrive dans une galère d'esclaves et il repart dans un yacht. Amen. Dieu veut, à partir d'où nous nous trouvons, nous faire passer du pire au meilleur. Jésus lui-même a connu cette situation qui consiste à passer du pire au meilleur, sur la croix, abandonné de tous, meurtri, brisé, rejeté, brisé dans son corps, il connaissait le pire des châtiments. Et au bout de 3 jours, il était ressuscité. Il recevait autorité, je dirais dans tout l'univers, sur le ciel, dans le ciel et sur la terre. Il est passé du pire au meilleur.